Livre 8, l'instruction. Cependant, Marfa Ivanievna, la femme de Grigori, malgré le profond sommeil qui la paralysait, se réveilla tout à coup, sans doute gênée par les cris de Smerdiakov qui souffrait dans la chambre voisine. Ces cris de l'épileptique avaient toujours épouvanté Marfa Ivanievna. Encore engourdie de sommeil, elle se leva et entra dans le cabinet de Smerdiakov. Il faisait sombre. On entendait les secousses, les hoquets et les cris du malade, mais on ne distinguait rien. Elle se mit à crier elle-même, à appeler son mari. Mais il lui sembla tout à coup que Grigori n'était pas auprès d'elle quand elle s'était levée. Elle rentra dans la chambre, tâta le lit. Vide! Elle courut au perron et appela Grigori. Pour toute réponse, elle entendit, dans le silence nocturne, une sorte de grésillement lointain. Elle prêta l'oreille. Les gémissements se répétèrent. Elle comprit qu'ils venaient du jardin. « Mais, Seigneur, on dirait les cris de Lizaveta Smerdiachnaïa. » Elle descendit du perron et aperçut la petite porte du jardin ouverte. Oh, il est peut-être là. Elle se dirigeait vers cette porte quand elle entendit Grigori l'appeler d'une voix faible et douloureuse. « Marfa ! Marfa ! » !»« Seigneur, protégez-nous !» murmura Marfa et elle s'élança dans la direction de Grigori. Il était plus près du mur où il était tombé. Il avait fait une vingtaine de pas en se traînant. Elle vit aussitôt qu'il était tout en sang et se mit à crier. Grigori murmura faiblement et d'une voix entrecoupée. Tu es son père. Oh, qu'as-tu à crier? Saute, allez, cours, appelle. Marfa Ivanievna continuait à crier. Soudain, apercevant la fenêtre du baril ouverte et éclairée, elle y courut et se mit à appeler Fiodor Pavlovitch. Mais, ayant regardé dans la chambre, elle vit le baril étendu sur le dos, par terre, sans mouvement. Sa robe de chambre de couleur claire et sa chemise blanche étaient inondées de sang. La bougie qui brûlait sur la table éclairait le visage du mort. Maria Faiklavnievna sortit en courant du jardin, ouvrit la porte cochère et alla frapper chez Maria Kontradievna. Les deux voisines, la mère et la fille, dormaient, et les coups de poing que Marfa Ivanievna frappait sur les volets éveillèrent les deux femmes. Marfa Ivanievna leur dit la chose en paroles incohérentes et les appela au secours. Elles firent lever le gardien et tous se rendirent sur le lieu du crime. Chemin faisant, Maria Kontradievna se rappela que vers 9 heures, elle avait entendu un cri aigu. C'était précisément le parricide de Grigori. Arrivés sur la place où était étendu Grigori, ils le transportèrent dans sa chambre. On alluma une bougie et l'on s'aperçut que Smerdiakov était toujours en proie à sa crise, les paupières révulsées, l'écume aux lèvres. Après avoir lavé la tête de Grigori avec de l'eau et du vinaigre, les deux femmes et le soldat se rendirent chez la barine et virent en passant que la porte de la maison était grande ouverte. Et on savait que le barine s'enfermait toujours pour la nuit. Les deux femmes l'osèrent entrer et revinrent chez Grigori qui leur ordonna d'aller prévenir l'ispravnik. L'ispravnik prévint aussitôt les autres autorités judiciaires et tous se rendirent dans la maison du mort où l'instruction commença sur place. Fiodor Pavlovitch avait la tête fracassée. Mais avec quel instrument ? Sans doute avec la même arme qui avait servi à assommer Grigori et qu'on retrouva dans une allée. Le médecin judiciaire donna les soins nécessaires à Grigori, qui raconta tout ce qui lui était arrivé. Dans la chambre de Fiodor Pavlovitch, on ne trouva aucun désordre, sauf que derrière les rideaux de son lit, par terre, on ramassa une grande enveloppe avec l'inscription « 3 000 roubles pour mon ange Grushenka si elle veut venir ». Et plus bas, à mon petit poulet. L'enveloppe était déchirée et vide. On trouva aussi par terre la fave rose qui avait entouré l'enveloppe. De son côté, Piotr Ilitch, à qui Fenia n'avait pu rien apprendre, se rendit chez l'Ispravnik. Là, il apprit l'événement et déclara tout ce qu'il savait lui-même. La supposition que Dmitri Fiodorovitch se tuerait le lendemain matin attira l'attention du procureur. Il fallait donc sans retard s'en aller à Pokroyé pour saisir le coupable avant qu'il ne fût fait justice lui-même. Toutes les formalités de l'instruction terminées, les autorités judiciaires partirent pour Pokroyé. Seul le médecin resta dans la maison de Fiodor Pavlovitch, ayant à faire l'autopsie du cadavre, et d'ailleurs très intéressé par l'état de Smerdiakov. Des crises d'épilepsie aussi violentes et aussi longues de 2 jours sans interruption sont très rares, dit-il, et appartiennent à la science. Il avait même affirmé au procureur et au juge d'instruction que Smerdiakov n'atteindrait pas le lendemain. Mitya regardait donc d'un air hagard autour de lui, sans comprendre ce qu'on disait. Tout à coup, il se leva, tendit ses mains vers le ciel et écria « Mais je ne suis pas coupable. De ce sang-là, je ne suis pas coupable. Je n'ai pas versé le sang de mon père. Je voulais le tuer, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas moi. » À peine eut-il fini de parler que Grushenka parut et tomba aux pieds de l'Ispravnik. « c'est moi la maudite qui suis coupable, » sanglota-t-elle en se tordant les mains. « C'est à cause de moi qu'il a tué, c'est moi qui l'ai poussé à bout. J'ai torturé aussi le vieillard, celui qui n'est plus, mais c'est moi qui suis coupable de tout. » « Oui, c'est toi, toi !» cria l'Ispravnik, « toi, fille débauchée !» Il la menaça du geste, mais on le maîtrisa aussitôt. Le procureur le saisit même par les mains. « C'est du désordre, Mikhail Rebakharovitch, » dit-il. « Vous gênez l'instruction, vous gâtez l'affaire. Il faut prendre des mesures, il faut prendre des mesures, » dit à son tour le juge d'instruction. « Cela ne peut pas durer. »« Mais jugez-nous ensemble, » continuait Grushenka, toujours à genoux. « Mais condamnez-nous ensemble, je le suivrai jusqu'à l'échafaud. »« Grusha, ma vie, mon sang, ma sainte !» dit Mitya, s'agenouillant devant elle et la serrant dans ses bras. « Ne la croyez pas, elle est innocente, absolument innocente !» On l'arracha vivement d'auprès d'elle, on l'emmena. Il se laissa faire, sans s'apercevoir de rien, et ne revint à lui qu'assis à table, entouré de gens à plaques de cuivre. En face, sur le divan, siégeait le juge d'instruction, Nikolaï Parfienovitch, qui l'invitait constamment, avec beaucoup de courtoisie, à boire un peu d'eau. Mais Mitya s'intéressait surtout aux bagues énormes qui ornait les mains du juge. Un peu plus loin était un jeune homme en train d'écrire. « Mais prenez donc de l'eau, » dit doucement pour la 10e fois le juge d'instruction. « J'ai bu, messieurs, j'ai bu. Eh bien, écrasez-moi, condamnez-moi, décidez de mon sort. » Donc, vous affirmez que vous êtes innocent de la mort de Fiodor Pavlovitch, votre père. Mais innocent, Oui, mais je suis coupable pour avoir versé le sang d'un autre, mais non pas celui de mon père. J'ai tué, mais il est horrible qu'on m'accuse du sang que je n'ai pas versé. Horrible, messieurs. Mais qui donc a tué mon père? Qui donc a pu le tuer, si ce n'est moi? Oh, c'est prodigieux, c'est absurde, c'est une impossibilité. Précisément, qui a pu le tuer? Dit le juge. Mais le procureur Hippolyte Kirillovitch jeta un coup d'œil significatif au juge d'instruction, puis il dit à Mitia: Vos inquiétudes au sujet du vieux domestique Grigori Vassilievitch sont vaines. Sachez qu'il est vivant, malgré le coup terrible que vous lui avez asséné, comme il vous en accuse et comme vous l'avouez. L'avis du médecin est que Grigori guérira certainement. Vivant, il est vivant! Le visage de Mitia sera serena. Oh, je te remercie, Seigneur, pour la grâce insigne que tu daignes faire au pécheur, au misérable que je suis. C'est à ma prière que tu accordes ce miracle, car j'ai prié toute la nuit. Il se signa trois fois. Mais ce même Grigorif a fait contre vous une déposition d'une extrême gravité. Mitia ne laissa pas achever le procureur et se leva vivement. Un instant, messieurs, pardieu, un petit instant. Je veux seulement la voir. Permettez, c'est impossible maintenant, s'exclama Nikolaï Parfianovitch. Les gens aux plaques de cuivre se rapprochèrent de Mitia, qui du reste s'assit sans résistance. Tant pis, oh, je voulais seulement lui apprendre que le sang qui m'a tant tourmenté est lavé, que je ne suis pas un assassin. Messieurs, vous le savez, c'est ma fiancée, dit-il solennellement en regardant tous les assistants. Oh, merci, vous m'avez ressuscité. Ce vieillard, mais il m'a porté dans ses bras. Il me lavait dans une petite baignoire quand j'avais 3 ans, quand tout le monde m'avait abandonné. Il m'a servi de père. Alors donc vous, reprit le juge, permettez, monsieur, encore un instant, interrompit Mitia. Et s'accoudant sur la table, il cacha son visage dans ses mains. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir, laissez-moi respirer, messieurs. Tout cela est terrible. Vous frappez sur moi, je ne suis pas un tambour pourtant. Je suis un homme, messieurs. Vous feriez bien de boire un peu d'eau. Mitia releva la tête et sourit. Son regard était clair, sa physionomie calme. Il regardait les juges sans crainte et comme s'il eût été dans une réunion d'amis. Je vois, Nikolaï Parfianovitch, que vous êtes un juge d'instruction très habile, dit-il avec gaieté. D'ailleurs, je vais vous aider. Oh, messieurs, je suis ressuscité. Oh, ne vous offensez pas si je vous parle avec franchise, d'autant plus que je suis un peu ivre, je dois en convenir. Il me semble avoir eu l'honneur et le plaisir de vous rencontrer, Nikolaï Parfianovitch, chez mon parent Miousov. Monsieur, monsieur, je ne prétends pas à l'égalité entre nous, je comprends très bien la situation. Il pèse sur moi, puisque Grigori m'accuse, il pèse sur moi une terrible inculpation, je le comprends très bien. Mais au fait, messieurs, je suis prêt, finissons-en tout de suite. Car je ne suis pas coupable, ce ne sera pas long à démontrer, n'est-ce pas? Ainsi, nous noterons en attendant que vous niez radicalement votre culpabilité, dit le juge. Prenez note, dit-il au scribe. Prenons note de cela de soi, j'y consens, je donne plein consentement, messieurs. Seulement, voyez-vous, attendez, écrivez ceci. Il est coupable d'avoir fait du désordre, d'avoir donné à un pauvre vieillard des coups violents. De cela, il est coupable. Et aussi, en moi-même, dans ma pensée, je me sens coupable. Mais cela, il ne faut pas l'écrire, c'est particulier, ça ne vous regarde pas, c'est du fort intime. Quant à l'assassinat de mon vieux père, je ne suis pas coupable de ce crime hideux. Je vous le prouverai, je vous en convaincrai tout de suite. Vous rirez vous-même de votre méprise. Tranquillisez-vous, Dmitri Fedorovitch, dit le juge. Avant de continuer l'interrogatoire, je voudrais, si vous consentez à répondre, savoir de vous-même s'il est vrai que vous étiez, le défunt et vous, en mauvais termes, que vous ne l'aimiez pas et que vous aviez des querelles ensemble. Ici même, il y a un quart d'heure, vous avez dit que vous aviez voulu le tuer. Je ne l'ai pas tué, avez-vous dit, mais j'ai voulu le tuer. L'ai-je dit? Oh, peut-être bien. Oui, oui, plusieurs fois, j'ai eu l'intention de le tuer. Malheureusement. Vous en aviez l'intention. Voulez-vous consentir à nous expliquer d'où provenait cette haine contre votre père? Mais quelles explications voulez-vous, messieurs? Dit Mitya en haussant les épaules. Je n'ai pas caché mes sentiments. Toute la ville les connaît. Il n'y a pas bien longtemps que je les ai encore déclarés dans la cellule du Starets Zosima. Le soir du même jour, j'ai frappé et presque assommé mon père. Et j'ai juré devant témoins que je reviendrai le tuer. Oh oui, 1000 témoins, j'ai crié cela pendant tout un mois. Toute la ville en témoignera. Les faits hurlent. Mais les sentiments, c'est une autre affaire. Voyez-vous, messieurs, je ne crois pas que vous ayez le droit de me questionner là-dessus. Quoique vous soyez les représentants de l'autorité, mes sentiments intérieurs n'ont rien à démêler avec vous. Mais, puisque je ne les ai pas cachés, puisque je les ai dit à tout le monde, alors je vous en ferai pas un mystère. Voyez-vous, messieurs, je comprends à merveille que les charges contre moi soient accablantes. J'ai juré de le tuer, voilà qu'il est tué. Qui peut, sinon moi, avoir fait le coup? Je vous excuse, messieurs, je vous excuse absolument, car je suis moi-même très étonné. Qui peut avoir fait le coup, n'est-ce pas? Si ce n'est pas moi, qui est-ce donc? Qui, messieurs? Je veux le savoir. J'exige de vous que vous me disiez où il a été tué, comment et avec quelle arme. Il regarda successivement le procureur et le juge avec lenteur. Nous l'avons trouvé gisant à terre dans son cabinet, la tête fracassée, dit le procureur. C'est terrible, messieurs. Mitya frémit, et s'accoudant de nouveau sur la table, il se cacha les yeux avec sa main droite. Continuons, dit Nikolaï Parfenovitch. Donc, d'où provenait votre haine? Vous avez, je crois, déclaré publiquement que cette haine était née de la jalousie. Ah oui, la jalousie, et encore autre chose. Des questions d'argent? Eh oui, l'argent était aussi pour quelque chose. Il me semble qu'il s'agissait de 3 000 roubles que votre père vous redevait sur votre héritage maternel et qu'il avait refusé de vous donner. Comment 3 000? Mais plus de 6 000, plus de 10 000 peut-être. Je l'ai crié partout, je l'ai dit à tout le monde. Mais j'étais résolu à faire la paix pour 3 000 roubles. Il me les fallait coûte que coûte. De sorte que ce paquet caché sous un coussin, je le savais, et qu'il dessinait à Grushenka, je le considérais comme ma propriété. Oui, monsieur, comme mon indiscutable propriété. Le procureur échangea avec le juge un regard significatif. Nous reviendrons là-dessus, dit aussitôt le juge. En attendant, vous nous permettrez de noter ce point, que vous considériez cet argent, lequel était enfermé dans une enveloppe cachetée, comme votre propriété indiscutable. Mais écrivez, oui, monsieur, on me rend très bien compte que c'est encore une charge contre moi, mais cela m'est égal. Je m'accuse moi-même, entendez-vous, moi-même. Voyez-vous, messieurs, je crois que vous vous méprenez à mon égard. Vous me croyez un tout autre homme que je ne suis. Je vous parle loyalement, noblement, en homme qui a fait une foule de bassesses, mais qui resta toujours un être noble intérieurement, au fond de lui-même. En un mot, je ne sais comment m'exprimer. J'ai souffert toute ma vie de cette soif de noblesse. J'étais le martyr de cet idéal. Je le recherchais avec une lanterne de Diogène, et pourtant je n'ai fait que des bassesses, comme nous tous, messieurs. C'est-à-dire, oh non, je me trompe. Non, il n'y a que moi, de tel. Monsieur, j'ai mal à la tête. Son physique me faisait horreur, quelque chose de malhonnête, d'effronté. Il souillait toute chose. Bouffonnerie perpétuelle, cynisme dégoûtant. Mais maintenant qu'il est mort, je pense autrement. Comment cela autrement? C'est-à-dire pas autrement, mais je regrette de l'avoir tant détesté. Vous avez des remords? Non, je ne dirais pas des remords. Oh, n'insinuez pas cela. Je ne suis pas bon moi-même, messieurs, ni bien joli, et je n'avais donc pas le droit de lui en vouloir pour sa laideur et sa méchanceté. Allez, cela, inscrivez-le, si vous voulez. Et à mesure qu'il parlait, Mitia devenait de plus en plus morne. Mais tout à coup, Grushenka, qu'on avait éloigné et que gardait un moujik à plaque de cuivre, bouscula Maximov, qui était assis auprès d'elle, se précipita sur Mitia d'une manière si inattendue qu'on ne put l'arrêter. Mitia se jeta au-devant d'elle, mais on la saisit aussitôt et il fallut 4 hommes pour les séparer. « Mais que vous a-t-elle fait ?» s'écria Mitia, « elle est innocente !» Le procureur et le juge s'efforcèrent de le tranquilliser. 10 minutes se passèrent ainsi. Puis Mikhail Makarovitch entra. « Elle est en bas, » dit-il au procureur. « Me permettez-vous maintenant, messieurs, de dire à ce malheureux un mot devant vous, messieurs, devant vous ?»« Faites, Mikhail Makarovitch, nous n'avons rien à dire à cela. » « Dmitri Fedorovitch, écoute, mon petit père. » Sa physionomie exprimait une pitié profonde et quasi paternelle. « J'ai emmené Agrafiana Alexandrovna en bas et je l'ai confiée aux filles du patron. Le petit Maximov est aussi après d'elle. Je l'ai rassuré, je lui ai fait comprendre qu'il faut que tu te justifies. » Qu'elle ne doit pas se troubler, autrement tu pourrais augmenter les charges contre toi, comprends-tu? Oh, elle est intelligente et bonne. Elle m'a baisé les mains et puis elle a prié pour toi. Elle m'a envoyé de te dire d'être calme. Il faut, mon ami, que j'aille lui dire qu'en effet, tu es plus calme, n'est-ce pas? Je suis coupable envers elle. Oui, monsieur, c'est une âme chrétienne et bonne. Elle est innocente. Puis-je lui dire que tu es plus calme, Dmitri Fyodorovitch? Le bonhomme était ému par le spectacle de cette double douleur. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Mitia s'avança vivement vers lui. Permettez-moi, messieurs, permettez. Vous êtes un ange, Mikhail Makhailovitch, un ange. Merci pour elle. Je suis calme, je suis même heureux. Ayez la bonté de le lui dire. Je vais même rire, si vous voulez. Nous allons finir tout de suite et aussitôt libre, j'irai chez elle. Qu'elle m'attende. Maintenant, messieurs, je vais vous ouvrir mon cœur afin que nous terminions tout cela joyeusement. Nous finirons par rire ensemble. Mais, messieurs, cette femme, c'est la reine de mon âme. Souffrez que je vous le dise. Je vois que j'ai affaire à de nobles cœurs. Elle est la lumière, la pureté de ma vie. Oh, si vous saviez. Avez-vous entendu ces cris ? Je te suivrai jusqu'à l'échafaud. Et que lui ai-je donné, moi qui n'ai rien ? Pourquoi m'aime-t-elle ? Pourquoi m'aime-t-elle ? Est-ce que je mérite qu'elle m'aime ? Je suis un être ignoble et honté. Un tel amour. Mais pardonnez-moi tout ce que je vous dis là. Maintenant, je suis consolé, et des larmes de joie jaillirent de ses yeux. Le vieil Spravnik souriait. Les juges même sentaient que l'instruction entrait dans une phase nouvelle. Quand l'Ispravnik fut parti, Mitya s'écria « Eh bien, messieurs, je suis à vous maintenant. » L'interrogatoire recommença. Nous ne pouvons vous dire assez combien vos bonnes dispositions facilitent notre besogne, dit Nikolai Parfianovitch, visiblement satisfait. Cette sorte de confiance mutuelle est indispensable dans les affaires de cette importance, et c'est le meilleur mode de justification que puisse employer l'inculpé. Nous ferons donc tout ce qui dépendra de nous, comme vous faites vous-même. « N'est-ce pas votre sentiment, Hippolyte Krylovitch ? » demanda-t-il au procureur. « Certes, répondit le procureur, toutefois, avec une sécheresse accentuée. Messieurs, laissez-moi vous faire un récit rapide de tous ces événements. Veuillez ne pas m'interrompre inutilement. »« Très bien, mais avant de vous entendre, permettez-moi de constater ce petit fait que vous avez emprunté hier soir 10 roubles à votre ami Piotr Ilitch, en lui laissant en gage vos pistolets. « Oui, monsieur, j'ai fait cet emprunt, et puis... » « Racontez-nous donc, avec l'ordre d'emploi de votre journée d'hier, depuis le matin. Ben, »« Il fallait me le demander tout de suite, » dit en riant Mitya. « Voulez-vous que je vous dise aussi ce que j'ai fait avant-hier ?» Ainsi, il y a 3 jours, je suis allé dès le matin chez le marchand Samsonov pour lui emprunter 3 000 roubles sur gage certain. J'avais un très pressant besoin de cette somme. Non, permettez, dit avec politesse le procureur, pourquoi aviez-vous un si pressant besoin de cette somme ? Eh, messieurs, que de détails, où, comment, pourquoi, Bilvezet ? Il y aura bientôt de quoi remplir 3 volumes avec un épilogue si nous y allons de ce train. Mitya parlait du ton de bonhomie d'un homme déterminé à dire la vérité. Messieurs, se reprit-il, ne m'en veuillez pas pour cette brusquerie. Croyez que je vous rends tous les respects qui vous sont dus. Oh, je ne suis pas ivre. Je sais que je suis à vos yeux un criminel. Il n'y a pas d'égalité entre nous. Votre devoir est de m'étudier, mais convenez que vous embarrasseriez Dieu lui-même avec ces questions. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Où es-tu allé? Comment? Quand? Je puis dire, je ne sais quoi, vous en prendrez note, et qu'est-ce que cela prouvera? Rien. Je vous en prie donc de ne pas vous entretenir trop étroitement à la procédure classique, qui déduit d'un petit fait comme « qu'a-t-il mangé, qu'a-t-il craché ?» une grosse conclusion, et à l'accusé étourdi de détails, pose tout à coup la question terrible « As-tu tué ?» Ah ah ! Voilà votre ruse, toute. Employez ce procédé avec des bougiques. Avec moi, non. J'ai servi, je connais les choses. Vous fâchez pas contre Mitya Karamazov. On peut lui pardonner un peu d'insolence, c'est dans son caractère. Le juge riait. Le procureur restait grave et suivait attentivement tous les changements de physionomie de Mitya. Mais, dit le juge en continuant de rire, vous ne pouvez nous reprocher d'avoir voulu vous entortiller de questions telles que comment vous êtes-vous levé ce matin? Nous avons procédé avec une franchise que je qualifierais d'exagérée. Mais je comprends, oui, j'apprécie toute votre bonté. Vous êtes de nobles âmes, tous trois. Il règne entre nous la confiance réciproque de gens du monde, liés par des sentiments communs de noblesse et d'honnêteté. En tout cas, laissez-moi vous considérer comme mes meilleurs amis dans cette pénible occurrence. Je ne vous offense pas en vous parlant ainsi. Au contraire, vous dites très bien, Dmitri Fedorovitch, répondit sérieusement le juge. Donc pas de futilité, messieurs, allons au fait.
Rien de plus raisonnable, dit à son tour le procureur, mais je voudrais que vous eussiez déjà répondu à cette question, pour nous de la dernière importance. Que vouliez-vous faire de ces 3 000 roubles?
Ben, une chose ou une autre, qu'importe. Payer une dette?
À qui?
Ah, cela, je refuse absolument de le dire, messieurs. Non pas que je ne le puisse ou que je ne l'ose, mais c'est pour moi un principe. Cela concerne ma vie privée et je me paierai à personne d'y toucher. Votre question n'a pas trait à l'affaire. Bon, il s'agissait d'une dette d'honneur, et je ne dois pas dire envers qui.
Vous jugerez bon que nous en prenions note, dit le procureur.
Ben, je vous en prie, écrivez que je refuse de le dire et que je ne le dirai pas, car je considère qu'il serait indélicat de ma part de le dire. Bon, qu'il faut que vous ayez du temps à perdre, messieurs, pour tant écrire.
Permettez-moi, monsieur, de vous prévenir, de vous rappeler encore une fois, dit d'un ton sévère le procureur, que vous avez tous les droits de ne pas répondre à nos questions, et que nous n'avons, nous, nullement le droit d'exiger de vous des réponses qui ne vous plaît pas de nous faire pour tel ou tel motif. Mais il est de notre devoir de vous avertir de tout le tort que vous vous causez en refusant d'éclairer la justice. Maintenant, veuillez continuer.
Monsieur, vous croyez que je ne me considère pas comme offensé par... murmura Mitya, un peu confus de cette observation, et s'interrompant au milieu de sa phrase.
Il entama le récit des événements que nous connaissons déjà. Quand il en vint à sa visite chez Fenia, il s'écria malgré lui,
« Si je n'ai pas tué cette femme, messieurs, c'est uniquement que je n'en avais pas le temps alors. »
Le scribe consigna soigneusement cette exclamation. Mitya se tut un instant, puis expliqua comment il était entré dans le jardin de son père. Tout à coup, le juge l'interrompit et, dépliant une grande serviette qui était auprès de lui sur le divan, il en sortit le pilon. «
Connaissez-vous cet objet ?»« Oh, oui. Donnez donc que je vois. »« Oh, diable, non, oh, non, j'en veux pas. »«
Vous avez oublié d'en parler. »
« Ben, que diable, que voyez que je voulais le cacher, j'y pensais pas, voilà tout. »
Daignez donc nous expliquer comment vous vous êtes procuré cette arme.
« Je daigne, messieurs. »
Et Mitya conta comment il avait pris le pilon chez Fenia et s'était enfui. « Mais quelle intention aviez-vous en prenant cet objet ?»«
Quelle intention ? Ben, aucune. » J'ai pris, je me suis sauvé, voilà.
Mais comment l'auriez-vous pris sans intention? La colère commençait à naître en Mitya. Il regarda attentivement le tout jeune juge, le gamin, pensait-il, et il sourit d'un mauvais sourire, se repentant d'avoir parlé avec tant de franchise à de tels gens. « Je me moque de votre pilon !» s'écria-t-il tout à coup. « Cependant, eh bien, c'est pour les chiens. Il faisait chaud, enfin pour n'importe quoi. »
Mais auparavant, vous arriviez-vous ainsi quand vous sentiez la nuit, puisque vous craignez tant l'obscurité ?
Oui, que diable, monsieur, mais il est impossible, littéralement impossible, de parler avec vous, s'écria Mitya exaspéré. Écris, dit-il au scribe, écris immédiatement tout de suite. Il a pris ce pilon pour aller tuer son père, Fiodor Pavlovitch, pour lui fracasser la tête. « Êtes-vous content, messieurs ? » dit-il d'un air provoquant.
Il est évident que nous ne pouvons prendre en considération une telle déposition faite dans la colère qu'excitant vous nos questions, que vous considérez comme insignifiantes, quoiqu'elles soient très graves.
« Mais voyons, messieurs, j'ai pris ce pilon, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pris et je me suis enfui, vous dis-je, voilà tout. » Soyons donc raisonnables, messieurs, passons. Autrement, je vous jure que je n'ajouterai pas un mot.
Il était au moment de déclarer que, eh bien, il ne disait plus rien, dut-on l'envoyer à l'échafaud, mais il se maîtrisa et reprit.
Oui, vous, messieurs, en vous écoutant, il me semble faire un certain rêve qui m'est familier. Je suis poursuivi par je ne sais qui, un inconnu dont j'ai grand-peur. C'est la nuit, mon inconnu me cherche. Je me cache derrière une porte, derrière une armoire. Je suis lâche. Il sait très bien où je me suis caché, mais il feint de l'ignorer pour me torturer davantage, pour jouir de mon épouvante. Bien, c'est ce que vous faites maintenant. C'est tout à fait cela.
Vous avez de tels rêves ? Observa le procureur.
« Oui, j'ai de tels rêves. Voulez-vous le noter ?»«
Non, mais ils sont curieux, vos rêves. »«
Maintenant, ce n'est plus un rêve, c'est la réalité, messieurs. C'est le réalisme de la vie réelle. Je suis un loup et vous êtes des chasseurs.
Bon, »« La comparaison est outrée, » dit doucement le juge.
« Non pas, messieurs, » dit Mitya avec une colère soudaine. « Vous pouvez refuser de croire à la franchise d'un accusé quelconque. » que vous torturez avec vos questions, mais non à celle d'un homme noble, messieurs, qui vous parle dans toute la noblesse de son âme. Messieurs, non, vous n'en avez pas le droit, mais... Silence, mon âme, patiente, humilitoire, entre en toi-même. Faut-il continuer ? Demanda-t-il brusquement.
Comment donc, je vous en prie, fit Nikolaï Parfenovitch.
Mitya reprit son récit avec un peu d'irritation, mais il était évidemment résolu à n'omettre aucun détail. Il expliqua comment il avait escaladé la clôture, comment il s'était approché de la fenêtre et tout ce qui alors s'était passé en lui-même. Avec précision, avec lucidité, il analysa les sentiments qu'il avait envahis en cet instant où il désirait si violemment savoir si Grushenka était ou n'était pas chez Fiodor Pavlovitch. Chose remarquable, le procureur et le juge l'écoutaient maintenant avec une extrême et presque hostile contention. Ils le regardaient sévèrement et lui posaient le moins de questions possibles. Mitya ne pouvait rien lire sur leur visage. « Sont-ils offensés ?» se demandait-il. « Eh bien, au diable !» Et quand il en vint à dire qu'il avait fait à son père le signal convenu pour l'arrivée de Grushenka, le juge et le procureur semblèrent ne point prendre garde au mot « signal » comme s'ils ne le comprenaient pas, comme s'ils en ignoraient le sens. Et Mitya remarqua ce détail. Après avoir décrit la rage soudaine qui s'était élevée en lui au moment où, apercevant la figure de son père penché hors de la fenêtre, il avait saisi le pilon. Il s'arrêta inopinément comme exprès. Il regardait la muraille, sentant très bien braquer sur lui les regards perçants de ses juges. « Eh bien, dit Nikolaï Parfenovitch, Vous avez saisi votre arme et qu'avez-vous fait? Et j'ai tué. J'ai asséné à mon père un coup de pilon, je lui ai fracassé le crâne. N'est-ce pas? C'est ainsi d'après vous. Ses yeux étincelaient. Toute sa colère, naguère apaisée, se réveillait en lui, se révoltait avec une violence irrésistible. D'après nous, appuya Nikolaï Parfenovitch, mais d'après vous. Mitya baissa les yeux et resta assez longtemps sans parler. D'après moi, messieurs, d'après moi, voici comment la chose s'est passée, reprit-il plus doucement. Est-ce ma mère qui, en ce moment, priait Dieu pour moi? Est-ce un bon esprit qui me baisa au front en passant? Je ne sais, mais le diable a été vaincu. Je m'enfuis de la fenêtre et courus vers la barrière. C'est alors que mon père m'aperçut, et prenant peur, se retira vivement de la fenêtre. Je l'ai vu au moment de m'enfuir. Et j'enjambais déjà la clôture quand Grigori me saisit. Mitya leva enfin les yeux sur les juges. Il l'écoutait avec calme. Un frémissement de colère agita de nouveau son âme. « Messieurs, vous vous riez de moi !»« Mais d'où concluez-vous cela ?» demanda Nikolaï Parfenovitch. « Vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis. Je sens très bien que je suis arrivé au point capital. Le vieillard est là, gisant, la tête fracassée. Je raconte tragiquement que j'ai voulu le tuer, que j'ai même saisi le pilon. Et voilà, je me sauve. Une tragédie à mettre en vers. Allez-vous croire la bonne foi d'un tel gaillard? Et vous autres, messieurs, vous êtes des plaisantins. » Il s'agita sur sa chaise si violemment qu'elle craqua. Avez-vous remarqué, dit le procureur, comme s'il ne s'apercevait pas de l'animation de Mitya, en vous enfuyant, si la porte du jardin était ouverte? Non, elle n'était pas ouverte. Ah? Elle était fermée, qui aurait pu l'ouvrir? Bah, la porte, attendez, continua Mitya en frissonnant. Vous avez vu la porte ouverte? Oui. Mais qui a pu l'ouvrir, si ce n'est vous-même? La porte était ouverte et l'assassin de votre père a certainement passé par là pour entrer et pour sortir, dit le procureur d'un ton posé en détachant nettement chaque mot. Cela me paraît très clair. L'assassinat a été, c'est incontestable, commis dans la chambre, non pas à travers la fenêtre. Cela résulte évidemment de l'examen que nous avons fait du lieu du crime et de la position du corps. Il n'y a pas de doute à cet égard. Mitya demeurait abasourdi. Mais c'est impossible, messieurs, je ne suis pas entré. Je vous dis que la porte est restée fermée durant tout le temps que j'ai passé dans le jardin. Je me suis tenu sous la fenêtre. Et ce n'est qu'à travers la fenêtre que j'ai vu mon père. Je me rappelle tous les détails. D'ailleurs, le signal n'était connu que de lui, de moi et de Smerdyakov, et sans signal, mon père n'aurait pas ouvert. « Quel signal ?» demanda le procureur avec une curiosité fiévreuse. Il perdait tout son sang-froid. Il insinuait sa question comme on rampe, pressentant un fait important et encore inconnu, et craignant que Mitya refusât de dévoiler ce secret. « Ah, oh, vous ne le saviez pas !» dit Mitya en clignant de l'œil, avec un sourire sardonique. « Et qu'arriverait-il si je refusais de répondre? Qui vous dirait la chose à ma place? Le défunt, moi, Smerdyakov, et le bon Dieu sommes seuls à connaître ce mystère. Bon, le bon Dieu, il ne vous répondra pas. C'est un point très intéressant. Le diable sait tout ce qu'on en pourra déduire. Consolez-vous, messieurs, Je vais vous le dévoiler. Vos crânes sont chimériques. Vous ne me connaissez pas. L'accusé déposera contre lui-même, car il est un chevalier d'honneur. Quant à vous... » Le procureur avala sans faire la grimace ses amères pilules. Il frémissait seulement d'impatience. Mitia expliqua tous les signaux concertés entre Fiodor Pavlovitch et Smerdiakov. « Maintenant, échafaudez là-dessus un nouveau système, » conclut-il en se détournant avec mépris. « Alors, votre défunt père, vous et le domestique Smerdiakov, connaissiez seuls ces signaux, » insista le juge. « Oui, et le bon Dieu, notez que le bon Dieu, notez-le, bon Dieu, ça pourra servir. » « Donc, puisque vous affirmez que vous êtes innocent, ne serait-ce pas Smerdiakov qui aurait donné le signal pour que votre père ouvrit la fenêtre et qui, enfin, aurait fait le coup ?» Mitia jeta sur le procureur un regard ironique et si outrageant que Hippolyte Kirillovitch battit involontairement des paupières. « Vous tordez au renard un nouveau piège. Vous lui avez pris la queue dans la porte. Je lis dans votre jeu, procureur, vous pensiez que je ne manquerais pas de me lever et de crier à plein poumon. Eh ben oui, c'est Smerdiakov. Avouez que vous l'avez pensé. Avouez-le si vous voulez que je continue. » Le procureur n'avoua rien. Il attendit en silence. « Mais vous vous êtes trompé, je ne crierai pas que c'est Smerdiakov. »« Et vous ne le soupçonnez même pas. »« Et vous le soupçonnez-vous ?»« Nous le soupçonnions, lui aussi. » Mitia baissa les yeux. « Parlons sérieusement, écoutez. »« Dès le commencement, dès que je suis entré avec vous dans cette chambre, la pensée m'en est venue. » C'est Smerdiakov. Je pensais à lui en vous répétant que j'étais innocent de ce crime. Et tout à l'heure encore, j'y pensais. J'y ai pensé pendant une seconde, puis aussitôt je me suis dit « Non, c'est pas lui, il en est incapable. » Ne soupçonnez-vous pas alors quelque autre personne ?» dit cauteleusement Nikolaï Parfenovitch. « Je ne sais qui, Dieu, le diable peut-être, je ne sais. »« Mais Smerdiakov, non !» dit d'un air décidé Mitia. « Et pourquoi affirmez-vous avec tant d'insistance que ce n'est pas lui ?»« Par conviction, c'est mon sentiment. »« Smerdiakov est d'une nature basse et lâche. » Et lâche, oh, c'est trop peu dire, c'est un tas de lâchetés, toutes les lâchetés du monde, mises debout sur deux pieds. Il est né d'une poule. Chaque fois qu'il avait à me parler, il tremblait de frayeur, s'imaginant que j'allais le tuer alors que je ne pensais même pas à lever la main. Il tombait à mes genoux en pleurant. Il baisait mes bottes en me suppliant de ne pas lui faire peur. Entendez-vous, de ne pas lui faire peur? Je lui ai même offert des cadeaux. C'est une poule épileptique d'une intelligence très médiocre. Un gamin de 8 ans pourrait le battre. Non, 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 ce n'est pas Smerdiakov. Il n'aime même pas l'argent. Il a toujours refusé mes cadeaux. D'ailleurs, pourquoi aurait-il tué le vieillard? Il est peut-être le fils naturel de Fiodor Pavlovitch. Savez-vous cela? Nous connaissons cette légende. « Mais n'êtes-vous pas aussi le fils de Fiodor Pavlovitch? Pourtant, vous avez dit vous-même que vous vouliez le tuer. »« Encore une pierre dans mon jardin. Quel ignoble procédé, mais vous ne réussirez pas à m'effrayer. »« Oh, messieurs, n'est-ce pas indigne à vous de me dire cela, quand c'est moi-même qui vous ai confié cette secrète pensée? Non seulement j'ai voulu, mais j'ai pu le tuer. J'ai même déclaré tout à l'heure que j'ai failli un jour le tuer. Mais je ne l'ai pas tué. Mon ange gardien m'a sauvé. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre? Mais c'est ignoble, ignoble, je n'ai pas tué, je n'ai pas tué, je n'ai pas tué. Entendez-vous, procureur? Pas tué. Il est tout fait. Et que vous a dit Smerdiakov? Reprit-il après un silence. Puis-je vous le demander? Oh, vous pouvez nous demander tout ce qu'il vous plaira, dit le procureur sévèrement et froidement. Tout ce qui concerne l'affaire, et je vous répète qu'il est de notre devoir de répondre à toutes vos questions. Nous avons trouvé le domestique Smerdiakov sans connaissance dans son lit, en proie à une forte crise d'épilepsie, la 10e peut-être qu'il avait eue depuis la veille. Le médecin qui nous accompagnait pense que le malade ne passera pas la nuit. Alors c'est le diable qui a tué mon père. Nous reviendrons là-dessus, dit Nicolas Parfenovitch. Voulez-vous continuer votre déposition? Mitya demanda quelques minutes de répit qui lui furent accordées avec courtoisie. Après un long silence, il reprit son récit, mais on voyait que cela lui était pénible. Il était là, blessé, troublé jusqu'au fond de l'âme. Le procureur, comme exprès, se mit à l'irriter avec des futilités. À peine Mitya eut-il fini d'expliquer comment, étant à cheval sur le mur, il avait asséné un coup de pilon sur la tête de Grigori, puis était redescendu dans le jardin pour examiner le blessé, le procureur l'arrêta et le pria d'expliquer avec plus de détails comment il était assis sur le mur. Mitya fit un mouvement de surprise. « Ben, à cheval, une jambe d'un côté et l'autre de l'autre. »« Et le pilon ? Ben, je l'avais à la main. »« Il n'était pas dans votre poche, vous en êtes sûr ? Et avez-vous dû faire un très grand geste ?»« C'est probable, pourquoi ? » ?»« Si vous vous placiez sur votre chaise comme vous étiez sur le mur, » pour nous bien faire comprendre comment et de quel côté vous avez frappé. Est-ce que vous vous moquez de moi? Demanda Mitya en regardant avec hauteur Hippolyte Kirillovitch qui resta impassible. Puis il se mit à cheval sur sa chaise, fit un geste convulsif et dit: voilà comment j'ai frappé, voilà comment j'ai tué, cela vous suffit-il? Je vous remercie. Seriez-vous assez aimable pour nous expliquer comment, pourquoi vous êtes redescendu dans le jardin et dans quel but? Diable, c'était pour voir le blessé que je suis redescendu. Je ne sais pas pourquoi. Malgré votre trouble, en pleine fuite. Oui, malgré mon trouble et en pleine fuite. Vous vouliez lui venir en aide? « Quoi, oui, peut-être, en aide, ou je me rappelle plus. »« Vous saviez plus ce que vous faisiez. »« Pardon, je le savais très bien. »« Maintenant encore, je me rappelle les plus minces détails. »« Je suis redescendu pour voir. »« J'ai essuyé son sang avec mon mouchoir. »« Nous avons vu votre mouchoir. »« Vous espériez ramener le blessé à la vie ?» « Bon, je ne sais pas, je voulais tout simplement savoir s'il vivait encore. »« Ah, vous vouliez savoir? Eh bien, je ne suis pas médecin, je n'ai pu me faire aucune conviction, et je suis parti en craignant de l'avoir tué. »« Très bien, je vous remercie, c'est tout ce qu'il me fallait. Veuillez continuer. » Le procureur était satisfait de lui-même. « J'ai poussé à bout cet homme irritable, pensait-il. Je l'ai houspillé avec des futilités et il a donné dans le panneau. » Mitya se disposait à continuer quand Nikolaï Parfenovitch l'interrompit. « Mais comment avez-vous pu aller chez Piotr Ilitch avec votre visage et vos mains souillées de sang ?»« Ben, j'en savais rien. »« Ben, c'est vraisemblable. » Mitya allait s'étendre sur son dessein de laisser le chemin libre, mais il ne pouvait se résoudre à parler devant ces hommes de la reine de son cœur. Aux questions qu'on lui faisait, il répondait maintenant avec une netteté et une sécheresse imprévues. Eh bien, j'étais résolu à me tuer. Que faire désormais? L'ancien amant de Grushenka venait réparer le tort qu'il lui avait fait. Derrière moi, la honte, et puis ce sang de Grigori. Pourquoi vivre? Je suis allé dégager mes pistolets pour pouvoir, dès le matin, me loger une balle dans la tête. Et cette nuit, une fête à tout casser. Que diable, messieurs, finissons-en au plus vite. J'étais décidé à me tuer à 5 heures du matin. J'avais même écrit un petit billet. Il est encore dans ma poche. Je l'ai écrit chez Perrotine. Le voici, lisez. Il jeta sur la table le billet plié en 4. Les juges le lurent avec curiosité et, comme il va sans dire, l'ajoutèrent au dossier. Et vous n'aviez même pas pensé à laver vos mains avant d'entrer chez Perrotine. Vous ne craignez aucun soupçon. Oh, quel soupçon! Qu'on me soupçonna ou non, ça m'était bien égal. Comme je devais me tuer demain matin à 5 heures, on aurait eu le temps de rien faire contre moi. Sans la mort de mon père, vous n'auriez rien su et vous ne seriez pas venu ici. C'est le diable qui s'est mêlé de tout cela. C'est lui qui a tué mon père et c'est lui qui vous a si vivement amené ici. Car comment avez-vous pu venir si vite? C'est un prodige. Monsieur Perrotine nous a informé qu'en entrant chez lui, vous teniez dans vos mains, ensanglantées, votre argent, une grosse somme, une liasse de billets de 1000 roubles. Son groom aussi vous a vu. En effet, monsieur, c'est vrai. Une petite question, dit très doucement Nikolaï Parfenovitch. Où aviez-vous pris tant d'argent alors qu'il ressort de l'instruction que vous n'êtes même pas entré chez vous? Le procureur fronça les sourcils. Ce système d'interrogatoire direct lui déplaisait. Non, je ne suis pas entré chez moi, dit Mitya tranquillement. Permettez-moi dans ce cas de vous répéter ma question, insinua le juge. Où avez-vous trouvé une pareille somme, puisque d'après vos propres aveux, à 5 heures du soir de la même journée, j'avais besoin de 10 roubles. Et comme j'avais engagé mes pistolets chez Perrotine pour avoir ces 10 roubles, eh bien, je me suis rendu chez Malakholakov pour lui demander 3 000 roubles, que d'ailleurs il ne m'a pas donné. Eh oui, monsieur, j'étais dans le dénuement le plus complet. Et tout à coup, des milliers, messieurs, savez-vous, je suis sûr que vous avez peur tous les deux maintenant. Qu'arrivera-t-il s'il refuse de dire où il a pris cet argent? Eh bien, je ne vous le dirai pas, messieurs, vous avez deviné juste, vous ne le saurez pas, dit Mitya en marquant nettement chaque syllabe. Un silence. Comprenez, Dmitri Fedorovitch Karamazov, qu'il nous est très nécessaire de savoir, dit doucement Nikolaï Parfenovitch. Oh, je le comprends, mais je ne le dirai pas. Le procureur, à son tour, répéta à l'accusé qu'il avait le droit de ne pas répondre si le jugeait utile, mais que, vu le tort qu'il se faisait à lui-même, vu surtout l'importance de cette question, « Et ainsi de suite, monsieur, et ainsi de suite. Assez, j'en ai assez !» s'écria Mitya. « Je comprends très bien l'importance de cette question, c'est le point capital. Pourtant, je ne répondrai pas. » Mais quel intérêt pouvons-nous avoir ici? Dit avec irritation Nikolaï Parfenovitch. C'est à vous-même que vous nuisez. Voyez-vous, messieurs, j'ai pressenti dès les premiers mots que vous devions nous heurter sur ce point. Mais au commencement de cet interrogatoire, tout était devant moi, comme dans un brouillard. Tout allait de soi-même, au point que j'ai eu la simplicité de vous proposer une confiance mutuelle. Maintenant, je vois que cette confiance était impossible, puisque nous devions arriver à ce mur. Et nous y voici, à ce mur maudit. Du reste, je ne vous reproche rien. Vous ne pouvez, et je m'en rends très bien compte, me croire sur parole. Et Mitya se tut, il était accablé. Mais vous serait-il impossible, sans renoncer à votre décision de ne pas toucher à ce point capital, de nous parler des circonstances adjacentes, de nous dire par exemple les motifs qui vous obligent au silence en un tel moment? Mitya sourit tristement. Je suis meilleur que vous le pensez, messieurs. Je vous dirai ces motifs puisque vous ne valiez guère un grand sacrifice. Je me tais là-dessus parce qu'il serait honteux pour moi d'en parler. Cette question, où a-t-il pris cet argent, implique pour moi une honte pire que l'assassinat, pire que le parricide compliqué de vol. Voilà pourquoi je me tais. Quoi, vous notez cela? Oui, nous en prendrons note, répondit d'un air confus Nikolaï Parfenovitch. Vous ferez pourtant bien de ne pas mentionner ce que j'ai dit à propos de la honte. Je n'ai parlé de cela que par complaisance. Pourtant, écrivez, si bon vous semble, ajouta Dmitri d'un air dégoûté. Je vous crains pas, et je n'abdique pas ma fierté devant vous. Ne vous expliquerez-vous pas de quel ordre est cette honte? Demanda Nikolaï Parfenovitch avec une sorte de timidité. Le procureur fronça les sourcils, laissant voir une extrême irritation. Ni, c'est fini, ne prenez pas la peine d'insister. Je ne suis que trop avili déjà, c'est assez, j'ai fini. Mitya prononça ces paroles d'un ton décidé. Nikolaï Parfenovitch n'insista plus, mais il comprit au regard d'Hippolyte Kirillovitch qu'il n'avait pas encore tout à fait renoncé. Ne pourriez-vous pas au moins nous dire la somme que vous aviez entre les mains quand vous êtes entré chez Perhotin, c'est-à-dire combien de roubles? Je ne puis pas le dire non plus. Je crois que vous avez parlé à M. Perhotin de 3000 roubles que vous aviez reçus de Mme Khochlakov. Oui, peut-être ai-je dit cela. Mais n'insistez pas, vous ne saurez pas la somme. Soit, passons. Ayez donc l'obligeance de nous dire comment vous êtes venu ici et tout ce que vous y avez fait. Mitya hésita, puis consentit et raconta rapidement comment il avait renoncé à se brûler la cervelle à cause d'événements imprévus. Ce point intéressait médiocrement les juges. Nous reviendrons là-dessus quand se feront les dépositions des témoins, lesquels parleront en votre présence. Pour l'instant, veuillez mettre sur la table tout ce que vous avez sur vous et surtout votre argent. L'argent, oh, très bien, je comprends. Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas encore demandé. Le voici, mon argent, comptez, prenez. Tout y est, je crois. Il retira de sa poche même la menue monnaie, jusqu'à deux dvougrievni qu'il prit dans le gousset de son gilet. Il y avait en tout 836 roubles et 40 kopecks. C'est tout? Demanda le juge. Tout. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez donné 300 roubles au Plotnikov, 10 à M. Perhotin, au Yamchik 20, puis... Nikolaï Parfenovitch refit le compte. Mitya l'aida ou se rappela jusqu'au kopeck dépensé. Avec ces 200, cela ferait près de 1500 roubles par conséquent. Par conséquent? Et tout le monde affirme que vous aviez beaucoup plus. Soit qu'on l'affirme, mais vous-même l'avez affirmé. Moi-même aussi. Nous contrôlerons votre déclaration par les dépositions des témoins. Soyez sans inquiétude quant à votre argent. Il est sous la sauvegarde de la justice et vous sera rendu quand tout sera fini, s'il est démontré qu'il vous appartient. Maintenant, Nikolaï Parfenovitch se leva et déclara à Mitia qu'il était forcé et obligé de faire un examen détaillé de vos habits, dit-il, et du reste. « Soit, messieurs, je vais retourner mes poches. Ah, il faudra aussi que vous ôtiez vos habits. Comment me déshabiller, quoi diable ? N'est-il pas possible de faire autrement ?»« Impossible, Dmitri Fedorovitch. Il faut ôter vos habits. » Comme vous voudrez, dit Mitia d'un air las. Seulement, pas ici, je vous en prie, derrière le rideau. Et qui procédera à l'examen? Oh, certainement derrière le rideau, dit le juge avec solennité.